Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Paru chez Delcourt en 2004, Oko T01, le cycle de l'eau 1 sur 2, ouvre une série de bandes dessinées fantastiques conçues par Hub, nom de plume, de Humbert Chabuel. Le récit se situe dans le Pajan, empire imaginaire dont les usages évoquent le Japon médiéval, mais où démons, esprits et magie font partie du réel. Oko, Ronin 100 mètres, dirige un petit groupe de chasseurs de démons formé avec le géant masqué Noburo et le moine Noshin, amateur de saké. Lors de la capture de sa sœur par des pirates, le jeune pêcheur Tiku demande leur aide. Cette mission fournit le cadre initial d'une intrigue qui associe aventure, enquête surnaturelle et violence de guerre. Premier volet d'Undiptyque, cet album a pour fonction de présenter les compagnons, les règles de cet univers et les tensions qui traversent le pays. Son intérêt tient autant au travail graphique, dense et coloré, qu'à une fantaisie qui privilégie une ambiance de légende plutôt qu'une reconstitution historique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un Japon médiéval imaginaire plutôt qu'un décor historique, le Pajan ne prétend pas reproduire le Japon médiéval avec exactitude. Hub emprunte toutefois des repères immédiatement lisibles, tels que les ronins, les sabres, les maisons de plaisir, les hiérarchies guerrières et une architecture inspirée de références japonaises. Ces éléments donnent une cohérence culturelle au cadre sans transformer l'album en récit historique. Le choix de l'imaginaire permet surtout de faire entrer le surnaturel dans la vie sociale et politique. Les démons ne constituent pas un ajout décoratif placé à la marge des combats de samouraïs, ils modifient les dangers, les croyances et le métier même des protagonistes. Cette liberté autorise aussi la présence de technologies fantastiques comme les exos Bunraku, armures colossales manœuvrées par des marionnettistes, qui déplace les codes habituels de la guerre féodale. Le premier tome ne détaille pas encore toutes les implications de cet univers, mais il suggère un empire fragilisé par les rivalités de clans et les désordres. Ainsi, le cadre remplit deux fonctions. Il offre le plaisir visuel et dramatique d'une aventure de sabre, tout en préparant un monde où la puissance militaire, la magie et les intérêts des puissants sont étroitement liés. Cette construction explique pourquoi la série dépasse le simple récit de mercenaires. Deuxièmement, une quête de sauvetage qui révèle une menace démoniaque. La demande de Tiku donne au tome une structure narrative claire, retrouver sa sœur, enlevée durant une attaque de pirates. Cette situation place immédiatement les héros face à une détresse concrète, plutôt que devant une mission abstraite de protection du royaume. Elle permet également au lecteur d'entrer dans le groupe avec Tiku, personnage jeune et moins aguerri que les chasseurs de démons. Pourtant, la recherche ne reste pas une poursuite linéaire. Les indices rencontrés orientent progressivement l'aventure vers des forces occultes et vers une intrigue plus trouble que ne le laisse penser le point de départ. Hub utilise donc le récit de sauvetage comme une porte d'entrée vers les mécanismes de son univers. L'apparence des choses est incertaine. Les violences humaines peuvent cacher des intérêts surnaturels et les victimes sont prises dans des rapports de domination qui les dépassent. Le tome conserve une dimension de feuilleton car il constitue la première moitié du cycle de l'eau. Son dénouement partiel vise moins à fermer toutes les questions quoi déplacer le regard sur la nature réelle du danger. Cette construction entretient la curiosité sans exiger une connaissance préalable de la série. Elle fait aussi de Tiku plus qu'un simple commanditaire, son engagement personnel donne une gravité morale à la mission. Troisièmement, un groupe contrasté dont les secrets soutiennent la série, Oko repose sur une équipe volontairement hétérogène. Oko incarne le ronin compétent et réservé, figure centrale dont le sens de l'honneur guide les décisions sans dissiper toutes les ambiguïtés. Noburo, guerrier imposant caché derrière un masque rouge, apporte une présence inquiétante et une puissance physique qui contraste avec son identité incomplètement révélée. Noshin, moine porté sur le saké, introduit une tonalité plus libre et sert de médiateur avec le monde spirituel. Tiku, enfin, permet au lecteur de découvrir les méthodes et les dangers du groupe depuis une position plus vulnérable. Cette distribution est efficace parce que chacun possède une fonction dramatique distincte. Les compétences ne sont pas redondantes et les tempéraments créent une dynamique entre autorité, mystère, humour et apprentissage. Hub ne livre pas de longues biographies pour expliquer ses personnages. Il préfère faire sentir que leur passé comporte des zones obscures, notamment autour de Noburo et de leur lien avec la chasse aux démons. Le procédé nourrit le désir de poursuivre la lecture, tout en évitant que le premier album devienne un manuel de présentation. Les personnages restent parfois proches d'archétypes de l'aventure, mais leur non-dit leur donne une profondeur potentielle. Le lecteur est invité à observer leurs actes, leur silence et leurs réactions plutôt qu'à recevoir des explications définitives. Quatrièmement, le cycle de l'eau associe violence. Fantastique et enjeu de pouvoir, sous le mouvement d'une aventure de chasseurs de démons, l'album présente un univers où la violence ne se limite pas au duel. Les pirates, les rapports de service, les rivalités entre groupes armés et l'exploitation des personnes dessinent une société instable. Le contexte général de l'ère Asagiri. Période de troubles où plusieurs familles contestent le pouvoir impérial reste en arrière-plan dans ce premier volume, mais il donne une portée politique aux péripéties locales. Dans un tel monde, les héros ne peuvent pas isoler facilement le mal surnaturel des ambitions humaines. La présence de démons rend certaines menaces plus extrêmes, mais elle ne supprime ni la cupidité ni les abus des personnages humains. Cette articulation évite une opposition trop simple entre héros vertueux et monstres extérieurs. Elle fait du fantastique un révélateur des désordres déjà présents dans la société. Le titre du cycle annonce aussi une logique élémentaire qui organisera la série sur plusieurs albums. Ici, l'eau se manifeste par les lieux, les trajets et les forces spirituelles liées à l'intrigue, sans se réduire à un symbole unique explicitement énoncé. Le ton demeure sombre et peut comporter des scènes de violence ainsi que des situations adultes. Ce positionnement distingue l'album d'une fantasy jeunesse classique et demande un lectorat à l'aise avec une aventure parfois brutale. En dernier lieu, une mise en image très détaillée, parfois plus forte que la fluidité du récit, la réception de ce premier tome souligne régulièrement la qualité du dessin, des décors et de la couleur. Ebb compose des planches riches en détails, capables de rendre la densité des rues, des intérieurs, des paysages et des costumes. Cette attention donne au Pajan une matérialité essentielle, le lecteur ne voit pas seulement un décor inspiré du Japon, il perçoit un monde habité, stratifié et marqué par les dangers. Les couleurs contribuent fortement à l'atmosphère, en alternant chaleur, pénombre et tonalités plus inquiétantes selon les lieux et les moments. Le découpage cherche aussi à soutenir l'énergie des affrontements et la progression de l'enquête. Cependant, cette abondance visuelle peut rendre certaines scènes d'action moins immédiatement lisibles, surtout lorsque les personnages. Les effets et le mouvement se concentrent dans des cases serrées. Des lecteurs ont également relevé une narration parfois explicative ou un rythme inégal. Ces réserves ne contredisent pas la force principale de l'album, son identité graphique est déjà très affirmée. Le dessin ne sert pas seulement à illustrer un scénario de samouraïs. Il porte la promesse de la série, celle d'un univers fantastique cohérent où le moindre lieu peut contenir une menace, une trace du passé ou une manifestation spirituelle. Pour un premier album, cette maîtrise plastique explique largement l'immersion produite. En conclusion, Oko T01, le cycle de l'eau 1 sur 2, conviendra en priorité aux lecteurs de bandes dessinées de fantasy qui recherchent un univers visuel élaboré. Une aventure de sabre et une utilisation assumée du folklore surnaturel. Il peut également intéresser les amateurs de récits inspirés du Japon, à condition de le lire comme une création française librement nourrie de références japonaises, non comme une reconstitution. Le bénéfice principal de la lecture réside dans l'immersion hub, installe rapidement une géographie. Une atmosphère et un groupe de héros dont les compétences comme les secrets donnent envie de comprendre la suite. Le tome offre aussi une bonne entrée dans une série bâtie en cycle, puisque la quête de Tiku fournit un enjeu accessible tout en ouvrant des questions plus vastes sur les démons, les clans et le passé des compagnons. Son positionnement est néanmoins plus adulte que celui d'une aventure tout public sans aspérité, du fait de scènes violentes et de situations sombres. Face à de nombreuses fantasies de samouraïs, Oko se distingue par la fusion entre le récit de Ronin, la présence organique des esprits et une direction artistique très travaillée. Certains lecteurs pourront trouver les explications narratives ou certaines actions moins fluides que les images. Mais cette première partie se démarque par une identité immédiatement reconnaissable et par sa capacité à faire du décor, de la couleur et du mystère des moteurs narratifs à part entière. Si vous souhaitez soutenir Hub, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.